heartbeat breaks your heart like lovers do. Just know that I'll be with you.
Urbu, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Plus de 52 000 manifestants hier en France contre la proposition de loi sur la sécurité globale selon le ministère de l'Intérieur. 90 manifestations étaient organisées dans l'Hexagone. La loi sécurité globale, justement, Gérald Darmanin va laisser au Parlement le soin de trouver une nouvelle formule pour l'article 24. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur au journal du dimanche. L'article controversé qui punit de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende la diffusion d'images des forces de l'ordre à des fins malveillantes va être réécrit. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que cet article ne sera pas recyclé dans le projet de loi contre les séparatismes. Justice, 7 personnes ont été placées en détention après le démantèlement d'un réseau qui opérait sur les autoroutes. Les individus volaient des téléphones et des cartes bancaires sur les aires de repos. Ils opéraient notamment sur l'A10 en Eure-et-Loir et dans le Loiret. Ce qui, quelques exceptions seront faites pour les remontées mécaniques. C'est ce qui est indiqué dans un décret paru au journal officiel hier. Les remontées seront fermées au public, mais ouvertes pour les professionnels ou les jeunes licenciés d'associations sportives affiliées à la fédération de ski. Le secrétaire d'État au tourisme a promis hier qu'un dispositif d'indemnisation sera mis en place pour les commerces des stations de ski. Dans l'actualité internationale, Trump pourrait ne pas participer à la cérémonie de passation de pouvoir. C'est ce qu'a indiqué son entourage. Le président américain continue de dire qu'on lui a volé sa victoire face à Joe Biden. Il a même laissé entendre qu'il pourrait se représenter en 2024. Média pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l'histoire. C'est ce qu'affirme l'éditorialiste culturel du magazine. Elle explique qu'à moins d'avoir une centaine d'années et donc d'avoir connu la Première Guerre mondiale ou la Grande Dépression, la plupart des humains n'étaient pas préparés à vivre cette pandémie mondiale.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, on parle des nombreuses opérations de dépistage de la Covid-19 qui sont organisées depuis samedi dernier dans le sud du département. C'est le Perret en Yvelines qui a inauguré cette série de dépistages gratuits pour faire face à la pandémie de Covid-19 et avant l'arrivée des fêtes de fin d'année. La commune du Perret en Yvelines a en effet samedi dernier proposé en partenariat avec la région Île-de-France et Rambouillet Territoire des dépistages gratuits organisés 2 fois par semaine sans rendez-vous. Les tests seront effectués tous les mercredis et samedis, place de la mairie de 9h à 17h dans un équipement communal mobile aménagé spécifiquement pour les opérations de dépistage. Dans le cadre de ce partenariat avec Rambouillet Territoire, la démarche s'étend également aux communes de l'agglomération. Cette campagne est ouverte à tous, personnes avec ou sans ordonnance, symptomatiques ou asymptomatiques. Le dépistage se déroule en général de 9h à 13h et de 14h à 17h. Il est gratuit et sans rendez-vous. Lundi, à Ably, place des fêtes, mardi à Clairefontaine, parking de la salle des fêtes, jeudi à la Boissière-École, salle d'activité René Duboc, vendredi 11 décembre à Cernay-la-Ville, parvis de la mairie de rue de l'église, lundi 14 décembre à Alainville-aux-Bois, parking de la mairie, mardi 15 décembre à Hermeray, parking de l'école et de la mairie, jeudi 17 décembre à Bonnel, parking des écoles, vendredi 18 décembre à Gazeran, parking de la salle des fêtes, et enfin lundi 21 décembre aux Essarts-le-Roi, place du marché, mardi 22 décembre à Saint-Arnoult-en-Yvelines, place du Champ de Foire, et jeudi 24 décembre à Prunay en Yvelines, place du Moulin. Nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur les autres dates qui sont proposées pour ces dépistages gratuits dans le sud de notre département. Et puis je vous rappelle que le département des Yvelines met sur son site yvelines-info.fr un géoportail qui vous permet de calculer votre zone de déplacement 20 km autour de chez vous pendant 3 heures par jour. Il suffit de suivre les instructions qui sont très claires sur le site du géoportail et vous aurez ainsi une carte vous indiquant jusqu'où vous pouvez aller vous promener. Et vous retrouvez toutes ces informations sur yvelines-info.fr/déconfinement-calculer-la-zone-2-20-km-autour-2-chez-vous. Merci d'avoir suivi ce flash. Bon dimanche à tous.
RVE.
On va retrouver dans quelques instants, bien sûr, et bien Tribune Foot avec Philippe Carnus et son équipe, bien sûr, jusqu'à 11h. Et juste avant, petit point météo pour la journée avec un ciel qui restera plutôt nuageux avec quelques pluies et des maximales à 4 degrés attendus. À présent, c'est le retour de Tribune Foot sur RVE. Très bonne écoute.
chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche 6 décembre pour naturellement l'actu foot, c'est le premier dimanche du mois, alors riche actu foot qu'on commentera ce matin avec nos deux invités habituels depuis que nous sommes confinés. Dans une première partie, on aura le Marseillais Pierre et puis dans la deuxième partie, le Parisien José Vega. On va naturellement commenter une actualité foot particulièrement riche et abondante. On reviendra sur la semaine de Coupe d'Europe, on parlera de nos équipes de France, hommes et femmes. On fera aussi un petit point sur le championnat de Ligue 1. Mais avant, je pense que notre premier invité sera tout à fait dans cette optique. On va rendre un hommage à LPB des Oros, le gamin en or, Diego Maradona, qui nous a quittés, donc Pierre, la semaine dernière. C'est une icône du foot mondial qui s'en est allée.
Oui, totalement, Philippe. C'est vrai que moi, j'ai 33 ans, je suis jeune, je ne l'ai pas vu jouer sur les terrains. Mais après, maintenant, avec tous les moyens qu'on a à disposition, il suffit d'aller sur les plateformes et de regarder des vieilles images. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, par l'éducation que j'ai reçue de par mon père, qui était un fan absolu, moi, j'ai pu voir à quel point c'était un énorme joueur. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaisait dans ce joueur, c'est son aura et ce qu'il véhiculait hors du football. Quoi. C'était pas quelqu'un qui laissait indifférent. Et c'est ce qui me plaisait, même s'il a eu des déboires et même si parfois c'était limite, moi c'est les hommes qui sont pas invincibles et qui sont pas lisses qui me plaisent, à la différence de joueurs comme Messi ou Ronaldo qui sont des énormes joueurs, il n'y a pas le côté humain comme peuvent avoir Maradona ou Cruyff ou même Cantona. Donc moi c'est un joueur, ça m'a fait beaucoup de peine, J'ai trouvé que les hommages rendus avaient été assez bien faits sur tous les terrains de foot d'Europe et puis du monde en général.
Oui, alors c'est vrai, Pierre, que c'est ce qu'on a dit, c'est une légende, il y avait le joueur que nous, on a eu l'occasion de voir jouer et de suivre pendant plusieurs saisons, mais il y avait effectivement cet homme aussi, cette particularité. Est-ce que c'était un modèle pour un jeune joueur, l'homme justement?
Je sais pas si dans les écoles de foot il était pris comme modèle, parce que c'est vrai que aujourd'hui on prône le professionnalisme et une hygiène de vie irréprochable. Mais quand on a entendu toutes les interviews et toutes les déclarations après sa mort, même des jeunes joueurs s'identifient à Maradona parce que c'était quelqu'un, avec un ballon. Moi, je trouve que j'en ai parlé avec des amis à moi, si vous voulez. À part Ronaldinho, auquel je peux le comparer, si vous voulez, parce qu'il était vraiment magique et il avait un côté festif et comment dire, c'était vraiment de la magie sur le terrain. Enfin, ce qu'il faisait, j'ai pas vu quelqu'un le reproduire, si vous voulez. Et c'est pour ça que même dans les jeunes joueurs qui aujourd'hui sont dans les centres de formation, on l'évoque et on parle de Maradona.
Oui, c'est vrai que ça a été un immense joueur. Il a fait gagner l'Argentine en 86 à lui tout seul. On ne va pas revenir sur cette main de Dieu et sur ce deuxième but où il part du milieu du terrain. Mais il était peut-être moins lisse que Cruyff, moins lisse que Pelé. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Et qu'en plus, il était à peu près dans la lignée d'un Mohamed Ali, par exemple.
Oui, c'est ça. Après, Maradona, il était connu pour ses frasques en dehors du terrain, mais il était aussi connu pour ses idées politiques. Il était proche de Fidel Castro et de tous les hommes politiques d'extrême gauche de l'Amérique latine. Il venait du peuple, il venait de Donville, comme beaucoup de joueurs de foot, parce que le foot, c'est un sport très populaire. Et donc, je pense que beaucoup de personnes pouvaient s'identifier à ça. Et puis, il osait dire aussi, il osait parler dans les médias et face aux gens. Et il osait dire des choses que les sportifs ne n'osent pas. Il s'engageait, quoi. Donc, je pense que à côté de ça, ça aussi, ça a fait part de sa légende, quoi, comme Mohamed Ali en son temps aussi.
Très bien, en tout cas donc il aura marqué l'histoire du foot, il sera parmi les plus grands joueurs, Pelé, Cruyff, Platini, Zidane, Ronaldo, Messi. Après, C'est difficile de comparer le joueur même. Hein. Est-ce qu'il a été plus fort que Pelé, moins fort que Pelé? Les Brésiliens disent que c'est Pelé, les Argentins disent que c'est Maradona.
Ben c'est vrai qu'on a tendance à comparer, mais c'est pas la même époque. C'est pas déjà ben Pelé était attaquant, Maradona il n'était pas attaquant. Maradona il a fait gagner, il est venu jouer en Europe, pas Pelé. Enfin c'est totalement différent. Après moi là après c'est des avis personnels. Moi j'aurais tendance à préférer Maradona parce que déjà Maradona j'ai vu plus d'images de lui et puis comme je le disais tout à l'heure, je le trouve plus proche des gens et puis j'aimais ses phrases hors sportives, hors sport pardon. Mais Pelé, c'était encore plus vieux. J'ai pu voir ces images de 58 ou même de 70, mais après ces images quand il était à Santos ou même quand il était à New York, c'est un peu plus difficile.
Par rapport à Cruyff, qui lui par contre n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais qui a beaucoup marqué l'histoire du foot.
Déjà, Cruyff, je le placerai un peu plus dans la même veine que Maradona. C'est juste que Cruyff, il était pour moi parce que j'ai aussi vu des de Cruyff, il était tout aussi magique sur un terrain. Enfin, c'est avec le football total de l'Ajax et de Reinier Smith, ils ont réinventé le foot. Après, il est venu en tant que qu'entraîneur qu'ambassadeur au Barça où il a révolutionné encore une fois le foot. Et puis, je rappelle que dans 78, il a refusé d'aller à la Coupe du Monde en Argentine parce que c'était la dictature de Videla. Donc, ça rejoint un peu Maradona, si vous voulez. Après, il n'y avait pas les phrases corps sport, c'est vrai. Mais Pelé, si on compare, est-ce qu'il s'est vraiment opposé? Est-ce qu'il a vraiment, il s'est vraiment engagé politiquement? Je suis pas sûr. Voilà.
Non, il était beaucoup plus. Alors naturellement, bah Maradona, il avait failli signer à Marseille. Le supporter de l'OM que vous êtes, ça vous a pas interpellé, Pierre. Hein. Il a failli signer avec Bernard Tapie à Marseille. C'est parce que Michel Hidalgo a vendu la mèche que ça s'est pas fait.
Oui, je connais cette histoire. Je l'ai appris il y a quand même quelques années avant la mort de Diego, mais. Ça aurait été énorme. Enfin, déjà que Marseille est un club populaire en France, en Europe et même dans le monde. Si Diego Armando Maradona, le meilleur joueur de tous les temps, était venu jouer à Marseille, ça aurait eu un impact énorme. Franchement, c'est un regret parce que en plus, ça aurait fait mouche avec les supporters, c'est sûr. Vu comment ça s'était passé avec Naples, franchement, c'est dommage que ça s'est pas fait.
Alors, justement, la transition, elle est là. Marseille, parlons-en. C'est fini pour Marseille, pour donc la Ligue des Champions. Et c'est très, très, très compromis quand même, Pierre, pour une participation à l'Europa League. Ça va être compliqué.
Bah, malheureusement, quand on voit la campagne, j'ai envie de dire, tant mieux, en fait. Parce que, et c'est l'avis général des supporters marseillais. Avec une équipe, une envie comme ça, enfin on peut pas prétendre vouloir se qualifier en huitième de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Enfin, je suis désolé, mais quand on voit les derniers matchs face à Porto, c'est vraiment c'est lamentable. Après, c'est vrai qu'il y a eu un rachat. Je dis un rachat. C'est entre guillemets hein, contre l'Olympiakos avec un arbitre très très généreux, deux pénaltys, mais le jeu n'y était toujours pas. Donc là, il va falloir faire un exploit à Manchester City. Ça va être très compliqué. Il faut qu'en même temps, l'Olympiakos, faut que Porto à l'Olympiakos joue quelque chose parce que il va se jouer entre le Porto et la Manchester City la première place aussi, si je crois. Donc franchement, c'est dommage parce que après aussi longtemps ne pas être allé en Ligue des Champions, revenir comme ça, consolider un record tellement triste. Franchement, ça, moi, j'ai un peu honte, quoi. J'ai pas peur de le dire.
Oui, on va rappeler un 13 défaites d'affilée en Coupe d'Europe. Bon, Marseille a mis fin en battant effectivement Olympiakos 2-1, mais on n'a pas vu un match énorme. Vous l'aviez dit, Pierre, ils avaient été battus précédemment à Marseille par Porto 2-0, et puis plus encore largement à Porto 3-0. Et puis on va rappeler que ça n'avait pas très bien commencé avec une défaite à Olympiakos 1-0 et une victoire donc de Manchester City à Marseille 3-0. Donc effectivement, ça va peut-être permettre à Marseille, en cas d'élimination et de non-participation à une coupe d'Europe, de pouvoir mieux préparer sa deuxième partie de saison, parce que paradoxalement, les Marseillais sont très bien joués, et ben ils peuvent prendre la tête du championnat, ils ont deux matchs en retard, et qui sait.
Ben oui, tout à fait, Philippe, mais c'est quand même c'est incroyable, parce que quand on voit le match du week-end dernier en championnat face à Nantes, où Marseille a très bien joué, c'était rare de les voir aussi bien jouer. Quand on les voit trois jours après en Ligue des Champions, on comprend pas ce qui se passe. C'est les mêmes joueurs que l'année passée. On dirait qu'il y a une vraie crainte dès qu'ils entendent la petite musique de la Ligue des Champions. Alors, je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Est-ce que c'est le record qui les pèse? Est-ce que c'est la pression? Je sais pas. Après, c'est quand même aussi paradoxal de dire on va tout faire pour être en Ligue des Champions, puis une fois qu'on y est, on fait rien. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, si vous voulez, Philippe, moi, je suis assez déçu. Puis, de toute façon, il faut faire un constat que la plupart des Marseillais feront avec moi. C'est-à-dire que quand on fait un recrutement comme on a fait cet été, on peut pas prétendre, encore une fois, aller loin en Ligue des Champions. Là, on le savait d'avance. On a cru que ça pouvait, on pouvait encore faire des étincelles et sauver les apparences comme l'année dernière en championnat. Mais cette fois, c'est pas passé parce que c'est une grande compétition.
Oui, alors c'est fini aussi, mais ça on s'y attendait un peu, pour Rennes aussi, hein, qui, comme Marseille, eh bien, ne fera probablement pas de Coupe d'Europe. Bon, Marseille, c'est pas encore complètement sûr, mais enfin, il y a de fortes chances que Marseille ne soit pas en Europa League. Pour Rennes, c'est fini, Rennes ne sera pas en Europa League, hein, puisque les Rennais ont été battus à Krasnodar 1-0. On va rappeler qu'ils ont été battus à domicile par Chelsea 2-1, et plus largement encore au match aller en Angleterre 3-0, et puis que ça avait commencé très moyennement pour Rennes, hein, puisqu'ils avaient concédé nul 1-1 contre Krasnodar, ils avaient été battus à Séville. Sans démériter, par contre, sur ce match 1-0. Donc, Rennes, bon dernier, avec un point. Il leur reste un match à jouer.
Oui, oui, oui. C'est différent. Oui, oui, Philippe. Mais après, c'est différent, parce que Rennes, je l'ai dit le mois dernier, c'est différent. C'est leur première campagne européenne en Ligue des Champions. Ils n'ont pas vraiment l'expérience, ils ont des jeunes joueurs. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi quand même dire que ils ont fait un recrutement qu'on pensait assez conséquent pour la Ligue des Champions. Et force est constater que arriver en Ligue des Champions, même si c'est vrai que Chelsea et Séville c'est des gros clubs, ça n'a pas été ça non plus. Alors à la différence de Marseille, ils ont quand même réussi à marquer des buts, parce qu'à Marseille il y a quand même eu zéro but avant le match contre Olympiakos.
Oui, en plus.
Et puis ils ont quand même montré des choses, c'est-à-dire que oui, comme vous l'avez dit Philippe, à Séville, ils ont quand même plutôt bien joué. Quand ils perdent chez eux contre Chelsea, c'est vraiment sur un coup du sort un peu où Giroud marque le deuxième but à la 92e sur une erreur. Enfin, ils ont plus montré de choses que Marseille. Et puis de toute façon. Rennes et Marseille, c'est pas comparable, c'est pas la même pression, c'est pas le même engouement, donc on en fera toujours moins sur Rennes, il faut être honnête. Mais voilà, c'est quand même décevant globalement pour le foot français, faut se le dire.
Oui, alors naturellement, ce club qui poursuivra probablement l'aventure, c'est le Paris Saint-Germain. On s'y attendait un peu. Le Paris Saint-Germain qui est allé faire l'exploit, qui a enfin fait un beau match en s'imposant à Manchester 3-1 après avoir été battu au match aller 2-1 au Parc des Princes. Oui, bon, ils doivent jouer contre Istanbul qu'ils avaient gagné 2-0 en Turquie. Puis on va rappeler quand même qu'ils avaient battu les Psyches 2-1. Ils avaient été battus à l'Etrique 2-1 et ensuite ils avaient gagné le match retour au Parc 1-0. Donc fidèle à sa tradition, Paris Saint-Germain a su renverser la situation pour se qualifier donc pratiquement pour le deuxième tour.
Oui, oui, oui. Bah après c'est vrai que là justement on est dans un club où il y a des gros moyens et où on peut faire la différence et renverser des situations. Puisque avant le match contre Manchester, on avait vu un Paris Saint-Germain vraiment plutôt pathétique contre Leipzig. Ils s'en sortent miraculeusement où ils gagnent 1-0 sur un penalty, alors que Leipzig avait dominé tout le match et avait très bien joué. Là, contre Manchester, il y a eu un réveil et il était attendu parce que ça commençait à faire beaucoup puisque ils avaient aussi Paris Saint-Germain fait un match nul en championnat chez eux contre Bordeaux. Donc c'était un peu chaud. Mais même contre Manchester, ils gagnent 3-1, mais quand on regarde le match, ça s'est joué à peu de choses puisque Martial,
ça peut faire 2-2.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu Cavani qui leur a fait des misères, leur ancien joueur. C'est un peu la tendance du moment. Et puis c'était un très beau match. Et puis il y a des joueurs qui ont été plus au rendez-vous que d'autres, hein, parce que c'est vrai que Mbappé a un peu de mal ces derniers temps. Par contre, Neymar a su réveiller ses troupes, puisqu'on a appris aussi par la suite qu'il avait parlé dans le vestiaire et il avait dit que Paris c'est pas fait pour aller en Ligue Europa. Donc j'ai envie de dire, même si je suis Marseillais, heureusement qu'il y a un peu Paris qui est là pour relever l'indice UEFA, quoi.
Oui, et puis l'indice UEFA aussi pour Lille en Europa League, hein, puisque les Lillois sont d'ores et déjà qualifiés. Hein, ils ont 11 points, ils sont en tête devant le Milan AC qui a 10 points. Donc la première place du groupe se jouera la semaine prochaine pour la dernière journée. On va quand même rappeler que Lille a fait un beau parcours. Hein, ils ont battu le Spartak Prague 2-1, ils ont partagé les nuls certes à domicile chez eux 1-1, mais après avoir fait un très beau match à Milan où ils ont gagné de belle manière collectivement 3-0, et puis ils avaient aussi partagé les nuls contre le Celtic Glasgow 2-2 avant d'aller s'imposer très largement face au Spartak Prague 4-1. Donc Lille, c'est la bonne surprise de ce début de saison sur le plan européen, même si leur niveau c'est naturellement l'Europa League.
C'est la satisfaction du foot français en Europe, hein. Il faut être clair, hein. Ils jouent bien, ils font un exploit en allant gagner au Milan 3-0. Ils y vont probablement sortir premier de leur groupe. Je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils ont de quoi en plus peut-être faire quelque chose en Europa League. Hein. C'est plutôt bien. Et puis il faut encore souligner une nouvelle fois, Christophe Galtier fait du très bon boulot, alors que c'est compliqué apparemment avec ses dirigeants et avec Luis Campos notamment. Par exemple le joueur qui m'a triplé au Milan, Yazizi, le Turc, qui était arrivé il y a un an pour une belle somme, il était pas du tout il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre ces derniers temps, et puis hop, il arrive à le remotiver, et puis c'est devenu un joueur phare maintenant. Enfin, c'est ce genre de choses qui font que Christophe Galtier, je pense, est un grand entraîneur. Et c'est très bien pour le foot français, et c'est très bien pour Lille, et c'est très bien pour l'image du foot français. Après, j'espère qu'ils iront loin parce qu'il le faut. C'est important aussi que la France se montre en Europe.
Oui, parce que par contre, ça va continuer pour Lille. C'est terminé pour Nice, hein, Pierre, puisque ça a même coûté la tête à Patrice Vieira, donc remplacé par Urcea comme entraîneur. Nice définitivement éliminé. Les Niçois qui ont été battus cette semaine par le Bayer Leverkusen 3-2. Ils avaient aussi été battus à domicile par le Slavia Prague 3-1. Et puis le Slavia Prague qui les avait aussi battus au match aller 3-2. On va rappeler que Nice n'a qu'une seule victoire devant donc l'Apel Bir Sheva 1-0 après avoir mal commencé la compétition et avoir été étrié à Leverkusen 6-2. Nice qui va probablement donc peut-être finir dernière de sa poule. Ça dépendra de ce résultat donc à Apel Bir Sheva, mais de toute façon c'est terminé pour Nice et pour Patrick Vieira.
Bah oui, de toute façon, ça lui pendait au nez à Patrick Vieira depuis quelque temps. Hein. Ils étaient sur 8 matchs sans victoire et puis la campagne européenne de Nice, c'est vraiment une catastrophe. Alors que là aussi, c'est un club qui a des ambitions, qui a été racheté, qui ont fait des achats. Là, c'est vraiment une campagne catastrophique. Hein. Perdre 6-0 déjà, alors c'était quand même humiliant. Mais c'est surtout les matchs contre le... 6-2, pardon. Ouais, c'est surtout les matchs contre l'Europe, contre le Slavia Prague qui ont fait défaut. Ça coûte la tête à Patrick Vieira. Alors voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment dommage pour Nice.
Juste un petit mot sur le championnat, puis on parlera des équipes de France avec José tout à l'heure. Le championnat, bon, ça manque de suspense, et pourtant les positions sont très serrées. Pierre, hein, Paris n'a que 2 points d'avance.
Je suis pas tout à fait d'accord, Philippe. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord puisque si Marseille gagne ces deux matchs en retard, on passe premier et puis il y a 6 équipes qui se tiennent en peu de points.
Oui, oui.
Je pense que Paris,
tout le monde s'attend à voir le PSG largement survoler les débats et puis finalement on s'aperçoit que c'est plus sérieux que prévu, Pierre.
Oui, après Paris, justement, Paris cette année est peut-être bon à prendre. Et or, je pense qu'il y a des choses en interne qui se passent mal, on le sait, avec Tourelle, etc. et Leonardo. Neymar n'est pas content. Enfin, je pense que Paris est bon à prendre. Et derrière, il y a des équipes comme Lyon, comme Lille, comme Monaco, comme Marseille qui sont à l'affût. Et ça va être très serré et très palpitant. Et c'est pour ça que, il y a des équipes qui peuvent tirer leur épingle du jeu, comme Monaco ou comme Lyon, qui sont pas en Europe, et je pense qu'il va falloir faire attention à ça. Et si Marseille continue à jouer comme il joue en ce moment, c'est-à-dire pas très bien, ça va être compliqué de je dirais même viser le podium. Hein.
Bon, tant mieux, hein. Puis on en reparlera le mois prochain. Hein. Bonne fête de fin d'année, Pierre. 36-37 hein, ce week-end, il ne faut pas oublier quand même, hein, c'est le Téléthon. Voilà. Allez, merci Pierre, rendez-vous au mois de janvier.
Merci Philippe, au revoir.
Oui, on enchaîne avec José pour la deuxième partie de cette émission après la pub et la musique.
LED Pro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? Une installation électrique ou d'éclairage LED? LED Pro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? LED Pro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. LED Pro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région.
Les ampoules LED, projecteurs LED, bandeaux LED et des centaines d'articles LED à prix usine sont sur achatampouleled.com. Téléphone 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
À Rambouillet, 14 bis rue Châle, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volet, porte et porte de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Châle à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous, on a oublié qu'au final le feu, ça brûle.
Je t'aime. Je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime.
Le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc pour la deuxième partie de cette émission, ben on va retrouver après Pierre, le Marseillais, José le Parisien. José, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors José, même question qu'à Pierre, hein, on avait perdu on a perdu la semaine dernière Diego Armando Maradona. Quel a été votre sentiment, José, sur ce décès?
Un immense joueur, peut-être un petit peu en dehors du sérail, un petit peu en dehors des instances, puisque je pense que il en a. Après le dirigeant de la FIFA et tout ça, mais bon, en tant que footballeur, c'était un immense joueur, c'était peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du monde. La voix de Dieu, on revient toujours 80.
J'entends plus.
Moi, j'entends.
Oui, alors plus fort que Cruyff, oui, plus fort que Cruyff, plus fort que Marad, que Pelé.
Moi, pour moi, oui, plus fort parce que il était rapide, il était comme il était, il avait un centre de gravité quand même assez basse. Il s'intercalait entre les défenseurs et puis c'était un joueur complet. Bon, peut-être un petit peu moins de la tête, mais les deux pieds, pied gauche, pied droit, c'est un immense joueur. Après, comme je le disais, il était en dehors. Bon, il n'a pas eu que des bons moments. Il a eu des frasques un peu en dehors du football, mais ça, bon, on va passer. Mais donner suite, ben, c'était un des meilleurs footballeurs, si ce n'est le meilleur de son époque, bien sûr. Maintenant, quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, par rapport au Mexique, nous avons des Ronaldo et des Messi, et puis d'autres, Mbappé, etc. Mais pour son époque, ça restera quand même un très, très, très grand joueur.
Alors, justement, ce qui plaisait à Pierre, c'était quelqu'un qui était hors norme, en dehors du terrain. C'était sa marque de fabrique. C'était ça, le petit plus qu'il avait par rapport à des joueurs un peu plus lisses, comme Pelé, par exemple.
Oui, disons que il se soumettait pas aux instances. Disons qu'il était, comme je le disais à l'instant, il était un petit peu en dehors des instances du football, pas sur le terrain bien sûr, mais il ne portait pas une grande admiration à Blatter ou à Joao ou à Blanche. J'ai eu l'occasion de regarder une interview cette semaine, en début de semaine, sur une des chaînes de télé, et justement il disait que il les portait pas dans son cœur, tous ces gens-là. Disons qu'il ne rentrait pas dans certaines magouilles et ne se pliait pas comme ça, comme un petit mouton, quoi. Il disait ce qu'il avait à dire, il n'avait pas la langue de bois, voilà, c'est ça.
Ouais, c'était quelqu'un qui était contre les institutions, d'une façon générale, hein, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans le football.
Il admirait aussi Michel Platini, mais depuis qu'il était rentré et qu'il avait pris l'UEFA, la présidence de l'UEFA, il le critiquait pas en tant que joueur, mais il avait des petites réticences qu'il ait pris, parce qu'il avait une grande admiration pour Michel Platini, il l'a dit lors de l'interview, mais il est un petit peu plus réticent dès lors qu'il a pris la présidence de l'UEFA.
Alors José, on en a parlé aussi avec Pierre, hein, le bilan des Coupes d'Europe pour cette semaine. Deux clubs français vont poursuivre probablement l'aventure, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et puis Lille en Europa League, hein, puisque d'ores et déjà Rennes et puis Nice sont éliminés, et ça sera très 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 compliqué pour Marseille d'aller poursuivre l'aventure même en Europa League. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils sont à égalité de points avec l'Olympiakos, hein, ils ont 3 points chacun. Il faut vraiment un gros miracle, je suis désolé pour Pierre, mais il faut que l'Olympiakos perde et que Marseille gagne pour se retrouver à 6 points et pour être reversé en Europa League, pardon. Mais ils sont à égalité de points pour la troisième place en Europa League, et ça va être un peu compliqué pour les Marseillais, parce que dans ce groupe nous avons Manchester City qui est premier avec 13 points et Porto avec 10 points. Donc c'est la Ligue des Champions, la suite c'est fini pour eux, mais bon, 3 points, il faut absolument qu'ils gagnent et que l'Olympiakos perde.
Bah Pierre n'y croit pas, même lui personnellement.
Donc, disons qu'ils ont fait un meilleur match là, le dernier match, mais c'était pas encore le Marseille de l'année dernière qu'on avait en début de saison et tout au long de la saison en championnat. Quant à Lille, ils sont en tête là avec 11 points devant le Milan AC, et je pense que c'est le Sparta Prague qui sera reversé. Parce que c'est la Ligue Europa. Ouais. Donc on aura Lille et on aura je pense le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué aussi.
C'est pratiquement fait quand même Paris.
Oui, mais nous avons quand même les trois équipes qui sont à 9 points.
Oui, mais c'est l'adversaire le plus faible quand même. Hein. La Turquie, c'est l'adversaire le plus faible quand même.
Oui, hein. Istanbul, ils ont 3 points. Bon, s'ils ne gagnent pas contre Istanbul, là, autant aller au vestiaire tout de suite et puis pas en sortir, quoi. Après, bon, nous avons, il y a Leipzig qui finira certainement 3e. Mais après, tout peut arriver, hein, entre. Ils ont 3 points, ces trois équipes-là, Manchester, Paris Saint-Germain et Leipzig. Je vois une chance un peu plus prononcée pour le Paris Saint-Germain.
Oui, le PSG qui a bien renversé la situation, comme très souvent, hein, au stade du premier tour. On verra pour le deuxième. Mais enfin, en toute logique, donc José, le Paris Saint-Germain et puis Lille vont poursuivre l'aventure. Ça sera les seuls qui vont le poursuivre au printemps prochain.
D'ailleurs, en Europa League, le Nice Vieira il vient d'être limogé parce que bon, ils ont perdu à domicile encore contre le Bayer Leverkusen 3-2. Et je crois que ça a fini de sceller le sort de Vieira, de Patrick Vieira.
Alors justement, en championnat, on disait qu'avec Pierre, on se disait qu'on avait un championnat pas très passionnant. Et puis finalement, il est plus serré que prévu. Vous avez une explication ?
L'explication, c'est que peut-être qu'il y a des équipes comme Lyon là, qui ne jouent plus de coupe d'Europe, aucune coupe d'Europe, ils vont peut-être revenir. Et puis avec Lille aussi, qui est comme l'année dernière, qui est toujours dans les 3-4 premiers. Et après, nous avons peut-être on va pas parler du Paris. Je pense qu'il finit. On l'a dit à maintes reprises, on l'a dit plusieurs fois, que bon, il y a Paris Saint-Germain et les autres. Mais derrière, nous avons Lille, nous avons Lyon, un degré moindre, peut-être une équipe un peu moins connue. Bon, Saint-Étienne en ce moment, c'est pas terrible. Mais le championnat se resserre quand même. Je veux dire par là qu'il y a Paris et les autres, mais les 3 ou 4 places qui suivent après Paris, c'est assez ouvert quand même. Et ils sont peut-être décidés à jouer un peu plus, quoi. C'est quand même pas folichon, mais on dirait qu'il y a une petite envie de rejouer, de je sais pas. Alors, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, sans public, c'est pas évident, mais bon, toutes les équipes sont à la même enseigne. Mais disons que peut-être que c'est l'équipe de France qui tire un petit peu le championnat de France, bon, malgré que la plupart des joueurs de l'équipe de France. Et voilà, peut-être que c'est un petit déclic, je sais pas.
Alors justement, on voulait en venir à nos équipes de France, hein. Il était prévu qu'on en parle ensemble, José. Bah, ça s'est plutôt bien terminé cette année pour l'équipe de France, hein. Il y a eu un petit avertissement, un petit rappel à l'ordre après la défaite face à la Finlande, 2-0. Par contre, après, il y a eu un match référence contre 2-0. 1-0. Qui permet donc à l'équipe de France de bien finir son année, d'autant plus qu'elle a gagné aussi ensuite face à la Suède 4-2. L'équipe de France, donc, qui a fait cette saison 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, elle finit l'année en beauté et non seulement elle gagne son groupe de Ligue des Nations et elle jouera un vrai final contre la Belgique alors que l'Italie affrontera l'Espagne. On va se régaler. Mm-hmm.
Oui, disons que perdu au Stade de France contre la Finlande. Voilà, il reste un match le 14 novembre contre le Portugal. Ça va être très dur. Et en fin de compte, le 14 novembre à Lisbonne, ils ont fait un super match. Hein. Bon, c'est tout à fait mérité. Le Portugal peut-être a été un peu surpris. Bon, ça c'est un peu verrouillé au milieu de terrain, mais c'est match aller, hein, où ils avaient fait 0-0 au Stade de France, mais là, c'est 1-0 le but de N'Golo Kanté, qui est largement mérité, et donc ils ont mérité leur place en Final Four, et ils vont donc tomber contre la Belgique, qui est encore une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est du monde. Et nous avons donc l'autre match de la finale, qui sera Italie-Espagne, c'est pareil, l'Espagne qui a balayer l'Allemagne dans le dernier match 6-0, c'est impensable. D'ailleurs, Joachim Löw, je ne sais pas s'il n'a pas encore été viré, mais bon, ça a dû chauffer pour ses oreilles quand même. Et voilà, ça va être un très beau Final Four entre France, Belgique et Italie, Espagne. On a des bons matchs à voir en 2021.
Oui, ça sera donc au mois d'octobre, dans la foulée de l'Euro, ce qui prouve, José, que l'équipe de France, elle peut être championne d'Europe et elle peut gagner ce Final Four dans la foulée. Hein. Elle a montré en tout cas que quand elle est au niveau, comme elle a joué face au Portugal, elle est la meilleure, sans problème au
moment. Disons qu'on commençait nous-mêmes à douter. Bon, je vais pas parler de Bibi, qui lui ne doute jamais de l'équipe de France, et il a peut-être raison, mais des fois on commence à les enterrer un peu trop vite, et c'est vrai que après le match, comme je disais tout à l'heure, contre la Finlande au Stade de France, on a commencé à se poser des questions. Didier Deschamps lui-même se posait des questions sur Giroud, sur Mbappé, sur tous ces grands joueurs. Et en fin de compte, quand ils sont vraiment décidés à jouer, c'est une équipe qui est vachement dure à bouger.
Et c'est le meilleur, ça c'est le meilleur.
ils sont pas champions du monde pour rien. Et puis voilà, pour résumer, ils ont la place qu'ils méritent. Ils sont dans le Final Four et ils l'ont amplement mérité. Et puis il y a rien d'autre à dire. Quand ils veulent jouer, bah ils jouent. Et puis c'est plus beau à voir que quand ils se traînent. Alors, est-ce qu'ils choisissent leur match ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils nous ont fait plaisir contre le Portugal à Lisbonne le 14 novembre.
Oui, inconsciemment, je pense qu'ils les choisissent. Alors, autre belle satisfaction aussi, ce sont les filles. Hein, nos filles qui sont qualifiées pour la phase finale de l'Euro 2022, malgré, donc elles sont invaincues, hein, elles ont terminé ce groupe invaincues avec donc 22 points, malgré quand même des divergences au sein de cette équipe. On comprend mieux pourquoi elle n'a pas passé le stade des quarts de finale lors de la Coupe du Monde 2019. Hein.
C'est vrai, bon, disons qu'il y a des petits accros entre le Sommer, entre Corignac, entre la Fédé. C'est vrai, mais c'est des choses qui restent en dehors du terrain. Mais au niveau football, c'est pareil. Sur le terrain, l'équipe de France des filles, c'est peut-être une des meilleures du monde avec les Américaines. Et voilà. Mais ils nous ont montré un super jeu. Bon, il n'y avait rien en face. Là, j'ai regardé une partie du match, là, les 12-0 dernièrement, la semaine dernière.
Le Kazakhstan. Voilà,
contre le Kazakhstan, 12-0. Bon, c'était trop facile. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait rien en face. Mais quand même, ils ont respecté l'adversaire, ils n'ont pas cherché à ne pas marquer, ils ont joué malgré la faiblesse de l'adversaire, ils ont joué puis ils ont cartonné 12-0 et c'était assez agréable à voir.
Mmh. Oui, mais José, malgré tout, on attend que cette équipe de France aille plus loin dans les grandes compétitions internationales parce qu'elle n'a jamais dépassé une quatrième place. Elle est souvent éliminée en quart de finale. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop, des fois, surcoté cette équipe de France?
Bah, rappelez-vous un petit peu dans les années 80 l'équipe de France masculine. On faisait toujours des super matchs ou des matchs amicaux. On était les rois des matchs amicaux. Et en Espagne d'ailleurs, rappelez-vous en 82 en demi-finale contre l'Allemagne de Schumacher. Et ben cette équipe-là, elle avait du mal à atteindre les finales. Et puis dès l'instant où ils ont commencé à gagner la Coupe d'Europe des Nations avec Monsieur Hidalgo. Michel Hidalgo, et à partir de là, après ils ont enchaîné, après il y a eu 98 la Coupe du Monde, et hop, ils ont explosé, et puis maintenant c'est devenu une très grande équipe. Est-ce que les filles, il leur manque pas le petit truc qui manquait à l'époque à l'équipe masculine pour franchir un cap et une étape supplémentaire pour être encore plus grand et pour aller au-dessus et pour justement faire partie des très grands? Ou des très grandes, puisque c'est des féminines, des très grandes équipes de mondiales comme les États-Unis et certaines équipes européennes.
Ouais, mais justement, est-ce que le fait qu'il y ait une entraîneuse hein, qui soit pas en cohérence avec ses joueuses, est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que cette équipe, elle arrivera en tout cas à franchir un palier? Parce qu'on voit des chances, c'est quelqu'un de respecté hein, dans son groupe.
Oui, c'est peut-être pas une. Disons que Corinne Diacre, elle a peut-être des idées bien arrêtées, et puis bon, il faudra peut-être qu'elle évolue aussi si elle reste en place, ou si un jour ils mettent une autre chose, mais elle a du caractère, elle le fait voir, et elle applique ses idées, et elle veut pas en démordre, donc peut-être qu'il faut aussi qu'elle se remette en question, et puis peut-être qu'elle aille vers un autre système de jeu, je sais pas, mais, et mettre un petit peu de cohérence et puis parce que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile de manager des filles, je me mets à la place des entraîneurs, hein, quand vous avez 11 ou 12 filles ou 11 ou 12 garçons, avec 11 ou 11 caractères différents, il faut composer avec, mais bon, quand on rentre sur le terrain ou quand on prépare un match, on est tous là pour la même chose, c'est représenter la France et gagner. Donc, il y a des fois où il faut laisser ses égos, justement, au vestiaire et sur le terrain, tout donner. Alors après, l'approche, moi je connais pas trop Corinne Diacre, mais il faut peut-être qu'elle aussi elle se remette en question.
Un petit mot sur les droits télé, parce qu'on en parle beaucoup, hein, ça peut, on en avait parlé le mois dernier, ça peut compromettre carrément le foot français. Mediapro ne pourra pas encore payer ce qu'il devait payer au mois de décembre. Il semble y avoir une alliance Canal Plus Bein Sport pour éventuellement reprendre, mais un tarif beaucoup moins cher des droits télé.
C'est normal, et en plus comme pour l'instant à cause de la pandémie du Covid, il n'y a pas de spectateurs dans les stades, donc il y a peut-être moins de rentrée d'argent, donc les publicités, tout ça, tout s'enchaîne. c'est pas facile. Donc il faut peut-être revoir à la baisse les tarifs aussi de cette compétition, parce que je crois que ça a dépassé le milliard avec Megapro, la chaîne espagnole chinoise, je sais plus. Qu'il faut Mediapro, il faut peut-être revoir les tarifs à la baisse. Hein. On ne peut pas continuer tous les ans à rajouter 200 ou 300 millions d'euros par rapport à l'année d'avant, c'est pas possible. Il arrive un moment, il faut redescendre sur terre et voir la réalité. On peut pas continuer comme ça à coups de millions ou de milliards pour payer une ligue d'Europe ou un championnat d'Europe. Hein. C'est pas possible.
On reparle aussi d'un nouveau de spectateurs selon des jauges dans les stades. José, vous en pensez quoi?
Je pense
dès la mi-janvier, ça pourrait se faire.
Oui, je pense que ça peut se faire. Et puis petit à petit, quand les scientifiques auront trouvé un vaccin et que la pandémie, courant, allez, deuxième semestre 2021, la pandémie s'éteindra un petit peu. On espère, j'espère moi-même, et on espère tous, même le plus tôt possible. Mais disons qu'après, on va peut-être commencer à reprendre une vie normale à partir du deuxième semestre 2021. Et ça serait bien que tout ça revienne en ordre et qu'on puisse redéplacer un nombre assez important dans les stades pour retrouver l'ambiance qu'on avait il y a un an ou deux. Mais je pense qu'on va retrouver tout ça bientôt.
Oui, parce que
c'est à souhaiter et à espérer.
Oui, parce qu'on a failli quand même remettre le concept de l'Euro 2021 en cause. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 10 villes qui vont recevoir l'Euro. On a failli finalement dire bah non, finalement, on ne fera pas dans les 10 villes, on va choisir un lieu commun. C'était ou l'Angleterre ou les Russes. Et puis finalement, on a décidé de garder l'ancien concept.
Oui, c'est pas plus mal, et moi je trouve que c'est un essai pour faire ça dans plusieurs villes, mais c'est vrai qu'avec la pandémie actuelle, c'était un peu compliqué, mais disons que, comme je le disais à l'instant, ça va peut-être, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit, et on va pouvoir peut-être retrouver une organisation normale des Coupes d'Europe, des Championnats d'Europe, des Championnats nationaux, et c'est très bien qu'on essaye de réorganiser tout ça, et dès qu'on pourra, et qu'on retrouve vraiment l'envie de retourner dans les stades et d'encourager nos équipes préférées.
José, à l'élu que vous êtes, je voulais aussi poser une petite question. Donc, le décès du président Giscard d'Estaing, cette semaine. Oui. Monsieur Giscard d'Estaing, pour ramener au sport, ça rappelle Saint-Étienne qui avait défilé donc aux Champs-Élysées malgré une défaite 1-0. Ça rappelle aussi le début du renouveau du foot français.
Oui, c'était quelqu'un, il avait été élu en 74 jusqu'à 81, et c'est quelqu'un qui a fait quand même des choses, il n'a pas tout fait bien, comme tous les présidents ou comme tous les élus, mais il a fait des belles choses, et puis il était quand même assez sportif, j'ai vu des reportages où il jouait, où il a fait quelques matchs de foot, il a fait une tête qu'on a vue et revue, mais bon, c'était, disons que c'est un personnage sympathique. Il a quand même, c'était un des plus jeunes présidents et ça a été le plus jeune ministre de l'économie et des finances de l'époque. Et je pense qu'il a quand même fait certaines choses, fait avancer même dans le sport. Et on gardera quand même comme un bon président.
Merci José, la pub, la musique, et puis on va rappeler on se retrouve d'ici quelques minutes.
Oui.
Attends.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Petit ou gros œuvre, Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux. Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâtipro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Le bonheur se faufile. Je devance le temps, mes pensées en exil. Je dérive, je rêve à l'envers. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix? Qu'on se fait des vents de liberté aux insouciants reflets. Je vacille, je vis sans repère. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix?
I feel everywhere. I'm with you. We can go.
Votre région avec RVE.
Dès que t'es prêt, on y va.
Oui. Voilà, simplement pour vous rappeler que naturellement, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison et depuis le début de l'année de, 2020. Puis, comme c'est un week-end de Téléthon, comme avec Pierre, on va vous rappeler, hein, il faut pas oublier, José, de faire le 36-37 à l'occasion de ce Téléthon. Très brièvement, vous vouliez finir en ayant un petit hommage à Olivier Giroud, qui est vrai qu'il a marqué 4 buts, ce qui est unique.
Oui, c'est vrai qu'on commençait à l'enterrer, à dire qu'il vieillissait et tout ça. Puis hier, il a répondu de la meilleure des manières en marquant un quadruplé contre Séville en Ligue des Champions, en Champions League. Et moi, je lui rends hommage parce que c'est un joueur qui se sacrifie pour l'équipe de France, hein, qui des fois a des occasions et puis il fait un travail de sape formidable pour ses coéquipiers. Et moi, je voulais lui rendre hommage pour les 4 buts qu'il a marqués avec Chelsea contre Séville. Voilà.
Oui. Surtout, c'est historique, il rentre dans l'histoire comme il est rentré dans l'histoire de l'équipe de France en ayant naturellement dépassé le nombre de buts marqués de Michel Platini. Il n'est plus très loin de Thierry Henry. Hein, donc,
ouais. Très bien. Et puis je pense que ouais. Et puis je pense que c'est un joueur sympathique et qui est vraiment agréable à voir, et ça fait longtemps qu'il est en équipe de France et il mérite bien d'être encore en équipe de France le plus longtemps possible. Voilà, je voulais rendre un petit hommage comme ça.
Merci José, à très bientôt. Rendez-vous donc
à bientôt, Philippe. Janvier.
Bonne fête de fin d'année, hein, comme pour Pierre.
Et merci, merci à vous et merci à tout le monde, et bonne soirée ou bonne après-midi. Au revoir.
Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. Merci à Damien d'avoir été avec nous ce matin encore pour gérer demain de mettre cette émission. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Tribune Sport, 10h-11h avec le Red 28. Bon dimanche à tous et à tous. Salut.
Allez.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Plus de 52 000 manifestants hier en France contre la proposition de loi sur la sécurité globale selon le ministère de l'Intérieur. 90 manifestations étaient organisées dans l'Hexagone. La loi sécurité globale, justement, Gérald Darmanin va laisser au Parlement le soin de trouver une nouvelle formule pour l'article 24. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur au journal du dimanche. L'article controversé qui punit de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende la diffusion d'images des forces de l'ordre à des fins malveillantes va être réécrit. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que cet article ne sera pas recyclé dans le projet de loi contre les séparatismes.